Chapitre 2. Seul, au milieu du corridor, Caldas vit avec anxiété s'éloigner M. Ganivet. L'idée de se présenter à des collègues si remarquables l'inquiétait sérieusement. Il éprouvait quelque chose de cette émotion du jeune poète qui, son manuscrit à la main, va frapper à la porte du Théâtre Français et sollicite une lecture de messieurs les sociétaires. Il cherchait un mot aimable, dégagé, spirituel, à dire en entrant, un de ces mots qui posent à tout jamais un homme. En attendant, il restait immobile devant la porte. Il étudiait la physionomie de ces panneaux derrière lesquels se trouvait l'inconnu. Il lut, sans y rien comprendre, les énigmatiques désignations que voici. 21e division, section 17e, sommier, 9e bureau. De la lettre A à la lettre H, le public n'est admis que de 2h15 à 3h30. « Tout ceci ne m'apprend pas grand-chose, » murmura Caldas. « Bah, entrons !» Il ouvrit la porte et reçut une pomme cuite sur l'œil. « Sacrebleu ! » s'écria-t-il en portant la main au siège de sa douleur. « Vous savez donc pas lire ?» lui cria un monsieur armé d'un balai et perché sur une échelle. « Le public n'est admis que de 2h15 à 3h30. » Deux autres messieurs, dont l'un brandissait des pincettes tandis que l'autre se faisait un bouclier de son pupitre, lui crièrent aussi « Mais oui, le public n'est admis !» « Mais sapristi, je ne suis pas le public, » riposta Caldas. « Je suis employé dans ce bureau. Monsieur Ganivet... »« Oh, tiens, c'est le nouveau !» dit le monsieur aux pincettes. « Oh, vous arrivez à propos, » dit le monsieur sur l'échelle. « Nous sommes accablés de besogne. »« Voici votre place, » ajouta le monsieur au bouclier en lui montrant une table non occupée. Et, profitant d'un moment d'inattention du monsieur aux pincettes, il lui asséna sur les reins un coup de règle plate à assommer un bœuf. La petite guerre recommença sans qu'on fît davantage attention au nouveau qui s'assit piteusement à sa place. La victoire ne tarda pas à se déclarer en faveur du monsieur à l'échelle et du monsieur aux pincettes. Forcé dans ses derniers retranchements, l'homme au pupitre lâcha pied et courut se réfugier derrière Caldas pour éviter la bagarre. Le nouveau se leva brusquement, sa chaise roula à trois pas et du coup il fut atteint par les pincettes. Ma foi, la moutarde lui monta au nez. Il saisit un plumeau et se rangea du côté de l'homme au pupitre qui, grimpait sur une table, se défendait courageusement. Caldas tapait comme un sourd et le vacarme redoublait. Tout à coup la porte s'ouvrit, un quatrième monsieur entra. C'était un petit homme sec, jaune, bilieux, à l'œil cave. Comme on était au lundi, il était rasé de frais. Monsieur Raflard, tel était son nom, ne se fait raser que tous les dimanches. Monsieur Raflard s'enrhume facilement. C'est pourquoi il porte des chaussons fourrés et une calotte. Il y a même une plaisanterie de tradition à ce sujet dans le 9e bureau. Tous les ans, au 1er janvier, les collègues de M. Raflard lui offrent une calotte de velours. Il s'est fâché la première année. Depuis, il s'est fait à ce cadeau. Peut-être même se fâcherait-il si on négligeait cette prévenance. Malheureusement, on ne lui donne pas de paletot pour remplacer celui qu'il porte à son bureau depuis l'année du retour des cendres. Ce paletot a juste 2 ans de service de moins que M. Raflard. C'est en 1838 qu'il fut nommé surnuméraire. Il a mis 23 ans à devenir commis principal. On n'avançait pas vite de son temps. Il croit qu'il sera sous-chef au moment de sa retraite. Mais il est le seul à le croire. Raflard a son bâton de maréchal. Tout le monde sait qu'il n'ira pas plus loin. S'il ne va pas plus loin... C'est simplement parce qu'il n'a pas été plus vite. Son peu de chance dans l'administration a aigri son humeur. Il avait le caractère difficile en entrant au ministère de l'équilibre. Il est devenu tout à fait insupportable. C'est la faute d'une gastrite, produit de son ambition rentrée. Profondément inintelligent, il rachète son incapacité par une gravité imperturbable. Il est fainéant, mais on ne l'a jamais vu inoccupé. C'est le paresseux le plus actif et la nullité la plus solennelle de l'équilibre. Monsieur Raflard sembla fort choqué de la conduite de ses collègues. « C'est avec de pareils enfantillages, dit-il, que vous faites le plus grand tort à tout le bureau. Vous serez donc jamais sérieux. » Les fonctions de commis principal au ministère de l'Équilibre ne comportent aucune prééminence sur les autres commis ou rédacteurs. Il est chargé seulement de distribuer le travail quotidien aux expéditionnaires. Si donc un commis principal a dans un bureau quelque influence, il ne la doit qu'à sa valeur personnelle. Et M. Raflard n'avait ni l'un ni l'autre. Trois grognements accueillirent son observation, et l'homme aux pincettes, se glissant derrière le commis principal, lui enleva lestement sa calotte. « Que c'est bête, M. Basquin !» s'écria-t-il. « Vous allez me faire prendre un rhume !»« On lui rendra sa casquette que s'il éternue, » dit l'homme à l'échelle. « Bravo, nourrissons !» firent les autres. « Allez, éternuez, mon oncle !» Mon oncle est une autre plaisanterie traditionnelle dont la légende se perd dans la nuit des temps. Le commis principal ne répondit rien. Il gagna d'un air revêche le bureau séparé qu'il occupait auprès de la fenêtre. « Quand il vous plaira de rendre ma calotte, » continua-t-il, « vous me le direz. » « Et qu'est-ce que tu payes si on te la rend ?» demanda l'homme au pupitre. « Je paye rien. J'ai pas 12 000 francs de rente comme toi, Gérondeau. Si je les avais, je serais pas ici à faire ce métier de galérien. » À ces mots, 12 000 livres de rente, Caldas laissa tomber son plumeau. Il considéra avec curiosité ce quadragénaire opulent qui répondait au nom de Gérondeau. On rendit la calotte à M. Raflard, qui n'en grogna que plus fort. « On peut jamais travailler ici, c'est dégoûtant. Si vous n'avez rien à faire, moi j'ai de la besogne, un rapport à faire copier. »« Voilà votre homme, » dit Gérondeau en montrant Caldas. « Monsieur est notre nouveau collègue. » Caldas se leva pour prendre des mains du commis principal le rapport en question. « Vous n'êtes pas dégoûté, vous, » dit l'autre, « un travail destiné au ministre. »« C'est donc bien difficile ?» demanda Romain. « Parbleu, oui, il faut avoir été maître d'écriture. » Tout rentra dans l'ordre peu à peu. Le rapport fut confié au jeune Basquin qui possède la plus belle ronde de l'administration. Gérondeau et Nourrisson s'installèrent à leur pupitre. L'un se mit à tracer un transparent et l'autre se plongea dans le feuilleton de la patrie. « Je voudrais cependant bien faire quelque chose, » hasarda Caldas. Ben, « j'ai là des tas de mutations, » interrompit vivement Gérondeau. « Ah oui, moi, un arrêté, minute et application, » ajouta Nourrisson. « Gardez donc votre besogne pour vous, » répliqua le commis principal. « Le chef m'a spécialement recommandé, monsieur. Je veux lui faire préparer des chemises. » À l'idée que la préparation des chemises allait devenir son attribution spéciale, Caldas fut saisi d'admiration. Il comprit qu'en administration comme en industrie, la division du travail est la loi fondamentale. L'aiguille, avant d'être livrée au commerce, a passé dans les mains de 27 ouvriers. S'il ne fallait que 27 employés pour le parachèvement d'un dossier. Romain se mit donc consciencieusement à préparer des chemises, en attendant le jour où on le trouverait capable d'en écrire les intitulés. Comme il s'escrimait de la règle et du couteau à papier, le garçon du bureau entra. Une douce intimité régnait entre ce garçon et ses employés. « Eh bien, n'est pas Bucène, cria Basca, et les amours, et les caillères. Les amours de l'époque Mucène et de l'Écaillère, qui ont égayé plusieurs générations au bureau du sommier, ne sont plus aujourd'hui qu'une rengaine qui peut se traduire ainsi « quoi de neuf ?» L'époque Mucène alla fermer soigneusement la porte qu'il avait laissée entrebâillée, et revenant avec un air mystérieux, « Vous ne savez pas, dit-il, la femme du sous-chef du bureau de l'équilibre médical ?» Eh bien, oh, je vous dis que ça. Ah bah, et une drôle d'affaire encore. Faut-il que les femmes aient de la malice? C'est le garçon des lampes qui m'a conté la chose. Dame, il est pas beau, monsieur Ravineux. Mais ne vous faites donc pas, ne nous faites pas languir, répond Mucène, dit Hérondeau. Eh bien voilà, même Ravineux, une blonde qui est pas piquée des verres, allez. S'en est laissé compter par monsieur de Grande du secrétariat de... De Grande, un beau garçon et qui est riche, fit Gérondeau. Alors que même Ravineux demeure à Auteuil dans une maison qui n'a pas de concierge, elle avait donné une clé au jeune homme. Et les soirs où monsieur Ravineux dînait à Paris, monsieur de Grande allait à Auteuil. Il était prévenu et prévenu par le mari, ce qu'il y a de superbe. « Comment ça ?» demanda Basquin. Ben, « Monsieur Ravineux porte habituellement des cravates noires, et quand il devait manger en ville, sa femme le matin lui faisait mettre une cravate blanche, vous comprenez ?»« Pas bête, » dit Gérondeau, « elle me plaît, cette petite femme. »« Oui, ben voilà le malheur. Jeudi dernier, elle était malade. Monsieur Ravineux s'habille, il trouve pas de cravate noire, il en met une blanche. » Monsieur de Gord, lui, voit le signal et le soir, il court à Auteuil. Ouvre la porte, monte à tantôt l'escalier et tombe sur le mari. Oh, dame, tout se découvre. J'aurais été plus adroit, dit Gérondeau. Et qu'est-ce que vous auriez fait? Il a porté un gros bouquet de camélias. Vous faites, voilà deux jours que monsieur Ravineau n'a pas reparu. Monsieur de Gord non plus. Il paraît que ça finira en police correctionnelle. Sacrebleu, interrompit M. Raflard en tapant du poing sur la table. Il n'y a pas moyen de travailler ici. Voyons, reprit le garçon du bureau, qu'est-ce que je vais prendre à ces messieurs pour leur déjeuner? Chaque employé donna ses instructions. Et vous, monsieur, dit Nepomucène en s'adressant à Romain, ne vous faut-il rien? « Merci, répondit Caldas, qui mourait de faim. Je n'ai pas d'appétit. »« Moi non plus, malheureusement, soupira Gérondeau, mais je mange tout de même, ça m'occupe. » Au ministère de l'Équilibre national, le déjeuner est l'occupation la plus sérieuse de la journée. Autrefois, on accordait une heure aux employés pour déjeuner de haut dehors. Mais le ministre, ayant reconnu l'abus de cette tolérance, décida qu'ils prendraient désormais leur repas dans les bureaux. Aujourd'hui, grâce à cette mesure efficace, le déjeuner n'absorbe pas beaucoup plus du tiers des 6 heures réglementaires. Il résulte de cette mesure un autre avantage. Les miasmes des paperasses se trouvent heureusement combinés avec les parfums culinaires les plus variés. Chaque pièce révèle la nationalité gastronomique de ceux qui l'occupent. Il y a le bureau des Alsaciens qui sent la choucroute et le bureau des Provençaux qui sent l'ail. L'étranger qui arrive à Paris et va visiter la ménagerie au Jardin des Plantes ne regarde pas à donner la pièce au gardien pour assister au repas des bêtes. De même, pour étudier l'employé de l'équilibre, il faut arriver à l'heure où il prend sa nourriture. À ce moment, les caractères se dessinent, les personnalités s'accusent, les situations se révèlent. Caldas, qui a bien voulu me servir de cornac quelquefois, m'a promené certains jours dans le dédale de son ministère entre 12h et 15h, car tous les employés, depuis la nouvelle mesure, ne mangent pas au même moment. Mon ami m'a fait voir l'employé sobre qui grignote l'antique petit pain d'un sou et se désaltère de l'eau tiède de la carafe qui mijote sur la cheminée. C'est un père de famille gêné, à moins que ce ne soit un libertin, qui nourrit un vice aux dépens de son estomac. Il m'a montré aussi l'employé goinfre qui engloutit et digère des montagnes de charcuterie. L'employé gourmet qui traite son ventre comme un ministre, qui élabore son café mélange d'amateurs dans une cafetière à condensateur. L'employé que son épouse soigne, à qui l'on apporte chaque jour une collation chaude. L'employé à la bouteille de vin, membre du nouveau caveau. Et l'employé à la bouteille d'eau de vie, hélas. Ce petit jeune homme a une mère qui le gâte, il arrive les poches bourrées de friandises. Cet employé économe achète chaque mois sa provision de salaison à la halle et vit 28 jours sur un jambonneau. Enfin, Caldas m'a fait connaître un ambitieux qui fera son chemin. C'est l'employé qui ne déjeune pas. Les quatre employés du bureau du sommier, collègues de Caldas, étaient éclectiques en gastronomie. À peine le garçon parti, chacun d'eux prépara sa petite batterie de cuisine. Grattoirs, plumes et canifs rentrèrent dans les tiroirs pour faire place aux assiettes, aux verres, aux couteaux et aux fourchettes. Nourrisson prit dans un carton sur lequel on lisait « Affaires litigieuses » un plat de fer battu et un grill. Le commis principal tira d'une armoire la casserole où il prépare son chocolat et plaça devant le feu la bouilloire où il fait cuire son œuf mollet. Gérondeau avait fait table rase, il mettait la nappe en linge damassé, ma foi. Gérondeau a un huilier, une salière, une cafetière et une cave à liqueur dont la clé ne le quitte jamais. Le calligraphe Basquin rinçait son verre. Du déjeuner, il ne soigne que les liquides. Le garçon de bureau, messager des appétits, rentra ployant sous le poids d'un filet rempli de comestibles divers. Il portait aussi dans un panier à trois étages la collation de Gérondeau. Une douzaine d'huîtres, un demi-perdreau truffé, une barbue aux fines herbes, une tranche de roquefort, une poire duchesse et une bouteille de sauterne. L'addition montait à 11 francs 50 centimes. L'expéditionnaire Gérondeau dépense à son déjeuner les appointements d'un sous-chef. « Ouf !» dit le garçon en déposant son filet. « J'ai cru que j'en finirais pas. » La dame de comptoir me racontait qu'un des garçons a volé plus de 80 bouteilles de vin à la cave. Nous lirons ça dans la gazette des tribunaux. Puis j'ai eu joliment de peine à trouver des harengs sorts, allez. « Mais qu'est-ce qui mange des harengs sorts ?» s'écria le commis principal d'un ton furieux. « C'est moi ?» fit Nourrisson après. « Mais c'est vraiment intolérable !» continua M. Raflard. Vous semblez prendre plaisir à nous empester. Hier, des cervelas à l'ail, aujourd'hui des harengs. Vous mangez bien du chocolat purgatif, vous, ça empoisonne la pharmacie. Au lieu de répondre, le commis principal se précipita vers sa bouilloire. Depuis 10 minutes qu'il discutait, il avait oublié son œuf. Sacré tonnerre, s'écria-t-il, j'ai pas de chance, mon œuf est dur. « Tant mieux, dit Nourrisson, je te l'achète pour ma salade. »« Allez au diable, répondit Raflard en piétinant avec rage sur son œuf. » Nepomucène était sorti. Les employés du bureau du sommier causaient gaiement la bouche pleine. Au jeu de toutes ses mâchoires, Caldas sentait défaillir. La faim, que dis-je, la fringale, lui mordait l'estomac. L'odeur des truffes de Gérondeau lui donnait le vertige. Il songeait avec effroi, en louchant du côté de ses huîtres appétissantes, que ce supplice de Cancale allait se renouveler tous les jours. Il se demandait pourquoi l'administration ne paie pas ses employés chaque soir. Le déjeuner tirait à sa fin. Gérondeau ouvrait sa cave à liqueur. Basquin, qui venait de se tailler quelques cure-dents dans un paquet de plumes à 4 francs, arracha Romain ses sombres réflexions. « Vous ne dites rien, collègue, acceptez donc un verre de cognac pour vous égayer. » Caldas se sentit profondément humilié, mais il ne refusa pas. Au même instant, le garçon de bureau rentra pour remplir la carafe vidée par le seul raflard. « Avec tout ça, » dit Basquin en trinquant avec le nouveau, « nous ne savons pas encore votre nom. » « Je m'appelle Romain Caldas. » Nepomucène dressa l'oreille. « Comment dites-vous, monsieur ? » demanda-t-il. Romain, un peu surpris de cette familiarité, répéta son nom. « Ah oui, j'ai une lettre pour vous, j'allais la rendre au facteur. » Caldas ouvrit de grands yeux, mais il les écarquilla bien davantage en reconnaissant l'écriture paternelle. Il rompit le cachet d'une main fiévreuse et un mandat rouge tomba à ses pieds. Géraudot, qui sirotait un verre de chartreuse, se baissa pour ramasser le mandat. « Ah, jeune homme, s'écria-t-il, voilà pour payer votre bienvenue. »« 120 francs, ajouta-t-il, or, recevez-vous souvent comme cela ?»« Tous les mois, répondit Romain, qui voulait se poser dans l'esprit de ses collègues. » La lettre de M. Caldas, le père, était ainsi conçue. « Mon cher Romain, si tu n'as point menti, cette lettre te parviendra, et je ne regretterai pas l'argent que j'y joins, puisqu'il te sera utile pour t'assurer une position. Si au contraire, comme cela t'est malheureusement arrivé quelquefois, tu avais cherché à m'en imposer, cet argent échappera à tes prodigalités. Je t'adresse cette lettre au ministère où tu es nommé, à ce que tu me dis, au bureau que tu me désignes. Puisses-tu, mon fils, persévérer dans cette voie et renoncer à ce dégoûtant métier de journaliste. La statistique, mon fils, t'apprendra que ce métier peuple les hôpitaux et parfois les prisons. Adieu, ta mère t'embrasse, elle a joint 20 francs au 100 que je m'étais proposé de t'envoyer. » La ruse paternelle affligea sensiblement Caldas, mais les 100 francs étaient un baume à cette blessure. Il n'eut plus qu'une idée, sortir pour aller manger. Mais comment faire? Il n'osait point s'ouvrir à ses collègues. Demander conseil eût été avouer qu'il désirait passionnément toucher ce mandat et faire soupçonner qu'il était sans le sou. L'insidieuse proposition de Géraudot lui offrit une planche de salut. « Messieurs, reprit-il, je serais heureux de vous offrir à dîner, mais je voudrais auparavant toucher ce mandat, et je crains qu'à la fin de la séance, le bureau de poste ne soit fermé. »« Barbleu, oui, bah, allez le toucher tout de suite, » dit l'impudent Géraudot. « Mais n'est-il pas défendu de sortir ?» « Sans doute, oui, bon, on sort tout de même. On exécute le tour du chapeau. »« Qu'est-ce que c'est que cela ?» demanda Romain. Basquin bondit dessus sa chaise et retomba sur ses pieds au beau milieu de la pièce. Il releva ses manches à la façon d'un escamoteur et de la voix bouffonnement emphatique d'un joueur de gobelet. « Écoutez bien, jeune homme, dit-il. « Car je ne parle pas ici pour le reste de l'honorable société. Le tour du chapeau ou l'escamotage de l'employé. Il s'agit d'escamoter un employé sous l'œil de ses supérieurs et que ceci n'y voie que du feu. Ça vous paraît difficile, jeune homme, c'est l'enfance de l'art. Mais, me direz-vous, malin, comment fais-tu donc ce tour du chapeau ? Rien n'est plus simple, plus aisé, plus commode et plus naturel. Il fait beau, vous voulez prendre l'air, un petit verre ou une queue de billard. Vous faites choix d'un collègue sédentaire. Sédentaire, là, j'ai toute la difficulté, d'un collègue dont la tête soit en rapport avec la vôtre. Vous lui empruntez son gibus et vous filez avec. Vous avez eu soin de laisser le vôtre en évidence sur votre pupitre avec votre mouchoir et vos gants, si vous en usez. Pendant ce temps-là, le chef peut venir. Il voit votre chapeau et vous êtes bien noté. Le tour du chapeau est fait. Et le vôtre aussi. Ma foi, dit Caldas, je vais exécuter le tour du chapeau et courir jusqu'à la poste. Il essaya alors le couvre-chef de ses collègues. Celui de Gérondeau, qui était beaucoup trop grand, ne lui allait pas mal. Basquin lui enseigna l'art de rétrécir le diamètre d'un chapeau en insérant entre la doublure et le carton quelques feuilles d'un magnifique papier à lettres. Nourrisson, qui mange des harengs sorts parce qu'il est coquet, lui offrit une brosse, un peigne et du savon qui sentait le musc. Caldas n'accepta pas, il était trop pressé. Au moment où il sortait, Basquin l'arrêta. « Il fait du soleil, lui dit-il, je vais vous accompagner. » La mine de Romain s'allongea à cette proposition. « Si ce diable d'homme vient avec moi, pensait-il, adieu mon déjeuner. » Il n'osa pas, cependant, décliner l'offre gracieuse. « Attendez-moi, dit Basquin, le chapeau qui me va est deux étages plus haut à la comptabilité, je vais le chercher. » Gérondeau profita de ce retard pour faire à Caldas quelques recommandations suprêmes. L'opulent expéditionnaire ne voyait pas sans angoisse son chapeau aller se promener sur la tête d'autrui. « Ayez-en bien soin, lui dit-il, ne marchez pas trop près des maisons. Il tombe des gouttes d'eau, souvent de la toiture, et si vous rencontrez de vos connaissances, évitez de les saluer. » Basquin reparut. « Faites comme moi, » dit-il à Romain. Et il prit à la main une des chemises que Caldas avait confectionnées le matin. « Et pourquoi, diable, nous embarrassons-nous ainsi de cette feuille de papier ?» demanda dans l'escalier le nouveau à son collègue. « Bon, mon cher, le pouvoir rencontrer quelqu'un dans les couloirs, notre chapeau éveillerait des soupçons. Ce passeport administratif fera croire à une commission à l'extérieur. » Précisément parce que le temps était magnifique, beaucoup d'employés avaient éprouvé la même velléité de promenade. Ils en rencontrèrent un certain nombre qui portaient gravement leurs feuilles de papier. Quelques-uns, les plus prudents, s'étaient précautionnés d'un dossier pour de vrai. Le bureau de poste n'était pas loin. Romain, lorsqu'il eut son argent en poche, calcula que, sans faire une trop longue absence, il pouvait inviter le calligraphe à prendre quelque chose, la monnaie de son petit verre. Il pensait d'offrir une absinthe et se faire servir une bavaroise au chocolat. « Si nous entrions dans un café, proposa-t-il, nous avons le temps, n'est-ce pas ?»« Si nous avons le temps, répondit Basquin, la feuille de présence ne se signe que demain matin à 10 heures. » « Je comptais bien vous proposer une partie de billard, seulement permettez-moi de vous conduire à notre café habituel. » Et il le mena au « Café de l'équilibre ». Cet établissement n'est pas le plus luxueux des 3 ou 4 de ce genre qui débitent de la chicorée aux environs du ministère. Si des employés lui ont donné leur clientèle, c'est que le patron a eu l'esprit de mettre aux vitres de sa devanture des rideaux fort épais. Un chef de division peut passer dans la rue, il n'apercevra pas ses subordonnés faisant l'école buissonnière autour d'un billard ou devant un tapis vert. Et on a quitté en masse pour cet établissement si discret, le café d'en face. Un loustique de l'administration avait répandu le bruit que le limonadier était un mouchard, en relations intimes avec le ministre, et qu'il faisait coller ceux dont les notes étaient en retard. Cette excellente plaisanterie a causé le suicide d'un père de famille, 3 faillites et jeté 11 enfants à l'hôpital. Le café de l'équilibre fait des affaires d'or. Lorsque Caldas y entra avec son collègue, les salles regorgeaient de monde. Il y avait bien là 150 jeunes gens, tous employés du ministère. L'animation était grande. C'était l'heure de la demi-tasse. Il y avait des allées et des venues. À chaque instant, la porte s'ouvrait et quelques nouveaux consommateurs se glissaient dans la salle. D'autres s'enfuyaient sans prendre même le temps d'essuyer leurs moustaches. Beaucoup absorbaient leur moka ou avalaient une chope furtive, debout, la tête nue, à la hâte. Cela n'avait pas fait le tour du chapeau. On reconnaissait les employés escamotés à leur quiétude. Ces derniers jouaient au billard ou comptaient les cents d'une partie de bésigue en 3000. L'entrée de Basquin fut saluée d'un hurrah. Comme il est toujours au café, il est connu de toute l'administration. Même il y avait fait de très bonnes connaissances qui lui donneront plus tard un coup d'épaule. Des gens en passe de monter très haut ont pris de lui des leçons de carambolage. Ce garçon arrivera par le billard. Ce noble jeu est d'ailleurs par excellence un jeu administratif. Il a donné à la France un secrétaire d'État sous Louis XIV, M. de Chamillard, qui n'avait pas son pareil pour couler sur une bille et pour faire le bloc. Le premier mot de Basquin fut pour le garçon. « Retenez-nous un billard » cria-t-il. Bientôt, la partie commença entre les collègues du sommier. Caldas, qui avait mangé 6 flûtes au beurre avec sa bavaroise, était d'humeur généreuse et clémente. Dès les premiers coups, il vit bien qu'il pouvait rendre 15 points de 30 à son adversaire. Il ne voulut pas égaliser la partie, il préféra lâcher son jeu pour faire à Basquin la politesse de le laisser gagner. Ils choquèrent longtemps l'ivoire en buvant des grogs et des chopes. Romain ne s'ennuyait pas. Le caractère de Basquin lui allait assez. Il avait oublié tout à fait l'équilibre lorsque Gérondeau apparut sur le seuil du café, le chapeau de Caldas à la main. Il ne l'avait pas mis sur sa tête parce qu'il était trop étroit. Comme la pluie depuis tantôt 3 heures avait succédé au beau temps, l'expéditionnaire avait reçu quelques gouttes d'eau et il arrivait fort mécontent. « Ah, voilà une fugue » cria-t-il. « Il fallait au moins nous prévenir, nous serions venus avec vous. C'est pas gentil. » Et s'adressant plus particulièrement à Romain avec un rictus ironique, « Monsieur Nourrisson, craignez que vous n'eussiez oublié votre si aimable invitation, et j'étais obligé de l'amener de force. »« Comment ?» dit Caldas. « Il est déjà 4 heures. Est-ce que nous ne remontons pas au bureau ?»« Oh, bien merci, » dit Basquin. « Vous trouvez peut-être que nous n'avons pas assez donné à l'administration pour ce qu'elle nous paye. » « La journée est finie, » dit Nourrisson. « Bien finie. » « Et on ne s'est pas aperçu de notre absence ?» demanda Romain. « Non, non, le chef est venu. On lui a fait voir vos chapeaux. »« Mais j'y pense, » dit Caldas à Basquin. « Vous n'avez pas rendu celui de votre ami. »« Mon ami est au-dessus de ça, » riposta celui-ci. « Nous n'avons qu'une tête à nous deux. » Gérondeau s'informa de ce qu'avaient fait les deux fugitifs pendant la journée. Basquin répondit qu'il avait joué au billard et qu'il avait gagné 7 parties. Ah, « Vous êtes très fort, mon petit, » dit Gérondeau à Basquin, « qu'il gagne toujours. Vous devriez m'en rendre, je suis dupe. Mais si M. Caldas veut me faire le plaisir de jouer l'absinthe... » L'honnêteté de Basquin se révolta de cette proposition. « Vous n'avez pas de honte, » cria-t-il à Gérondeau. Et se retournant vers Romain, « Oh, il est bien plus fort que moi, » continua-t-il, « n'acceptez pas. »« Qu'importe, » fit Caldas. Il joua mollement d'abord en homme qui ne se soucie pas de gagner. Au milieu de la partie, Gérondeau, enhardi par une avance de 10 points, lui dit tout à coup, « Au lieu d'absinthe, êtes-vous à maintenir 4 bouteilles de vin de champagne pour le dîner ?»« Quel canaille !» s'écria Basquin. Caldas hésita un moment. Il trouvait l'offre assez scandaleuse. Il accepta pourtant, mais il soigna son jeu et gagna un point de différence en n'en comptant pas moins trois que son adversaire lui vola. Gérondeau était furieux d'avoir perdu. Il reconnaissait bien là, disait-il, sa déveine ordinaire. Et comme il est plein d'amour-propre, il ne voulait pas s'avouer la supériorité de Caldas, et convaincu qu'il devait gagner. « Me donnez-vous ma revanche ? » demanda-t-il. « Oh, certainement, » dit Romain. C'était à Gérondeau de commencer. Il fit 11 points de suite. La partie était en vain. Au 11e carambolage qui ouvrait une série, il fit une seconde motion. « Tenez, dit-il, je suis bon prince. Je joue contre votre dîner les 4 bouteilles de vin de champagne que j'ai perdues et toute la consommation. Garçon, une bouteille de madère et des landresses. » « Oh !» pensa Caldas, « c'est pas trop violent. Nous allons bien voir. » Et comme la joie avait fait manquer à Gérondeau son carambolage sûr, Caldas prit la queue et ne la quitta que la partie gagnée. L'expéditionnaire aux 12 000 livres de rente fut anéanti sur le moment. Mais après réflexion, il dit tout bas à l'élégant nourrisson, « Je crois qu'il faut se défier de ce jeune homme. C'est un filou. » Au moment de partir, Caldas s'informa de ce monsieur maigre qu'il avait invité et qui déjeunait de chocolat, et on lui répondit qu'il ne dînait jamais en ville, et Gérondeau ajouta que sa figure lui aurait coupé l'appétit. Déjà, l'expéditionnaire riche était consolé. Il est ainsi fait. Sensible à la perte comme à l'extraction d'une dent, il est aussitôt guéri. Il s'exécute de bonne grâce et bon convive, remarquable fourchette. Le commerce d'un bon dîner lui donne presque de l'esprit. Le dîner fut excellent. On se sépara à 11 heures du soir, raisonnablement gris. En rentrant chez lui avec ses 120 francs intacts, Caldas faisait des calculs. « J'ai pourtant gagné 3 francs 33 centimes aujourd'hui, murmurait-il, et j'ai fait 6 chemises, soit 55 centimes et demi la chemise. Bon, c'est bien payé. » Au bout de 8 jours, Caldas, qui commençait à se gratter à l'endroit du collier, savait le fond du sac de ses 4 collègues. Il ne les eut pas observés que M. Lorgelin les lui eût déshabillés. Caldas avait fait connaissance de cet employé un jour qu'il avait été chargé d'aller faire des recherches au bureau voisin, qui comprend le reste de l'alphabet depuis H jusqu'à Z. « Nous n'aimions pas beaucoup M. Lorgelin à l'équilibre, me disait Caldas, mais nous l'estimions tous. Je dirais plus, nous le respections, bien qu'il ne soit que commis à 2 700 d'appointements. Lorgelin est un travailleur infatigable. Il y a en lui l'étoffe d'un administrateur. Le chef de division lui-même, lorsqu'il se présente quelques questions épineuses, ne dédaigne pas de prendre son avis. À tout cela se joignent un extérieur avantageux et des mœurs inattaquables. Cependant, on dit de lui au ministère, Lorgelin est rasé comme avancement. Pourquoi, comment, tout le monde l'ignore. Il ne le sait pas lui-même, sans doute. Évidemment, il y a quelque chose dans le passé administratif de cet homme remarquable. Mais quoi ? Une bévue, une imprudence, un malentendu, moins peut-être. C'est un mystère que nul n'a jamais pénétré. Et voilà 20 ans bientôt que cet homme aux talents inutiles moisit dans les emplois subalternes. Que de nullités lui ont passé sur le dos. Que d'incapables il a vu grandir et prospérer. Devenus ses chefs, ils ne se sont plus souvenus de lui. Il aurait donné sa démission depuis longtemps, à la première injustice ou à la 10e, s'il n'avait été très pauvre. Il pouvait gagner beaucoup plus ailleurs, il le croyait. Mais il n'a pas osé risquer, sur la seule carte de son intelligence, le pain de sa vieille mère. Sa mère est morte. Et il est resté, il restera jusqu'à la retraite. On lui a entendu dire une fois un mot douloureux. On crève habituellement les yeux des chevaux qui font tourner les manèges. On a oublié de me les crever, voilà tout. Cet homme serait peut-être le plus complet de tous ceux que j'ai connus au ministère, ajoutait Romain, si parfois l'acrimonie ne lui remontait à la gorge. Il a des accès de misanthropie. Alors il devient aigre, rancunier, méchant. Il s'en prend à ceux qui l'entourent, il passe sa colère, comme on dit. Pitié ou envie, il est âpre aux jeunes gens, à ces enthousiastes de la vie. Il aime à arracher les illusions généreuses. Il y prend un triste plaisir, comme ces enfants cruels qui plument tout vif les petits oiseaux. L'Orgelin dit à Caldas un jour qu'il se trouvait seul. « Vous devez périr d'ennui et de dégoût dans votre bureau. »« Oh !» répondit Romain en allongeant prodigieusement la lèvre inférieure. « Oui, je le conçois, je vous plains. Vous êtes avec de petites gens. »« Qu'est-ce que Gérondeau, un estomac ?»« Et Raflard ?» Un estomac détruit. Nourrisseau, un garçon coiffeur. Et Basquin, un calligraphe. Oh, vous êtes impitoyable, répondit Caldas en riant malgré lui. Impitoyable, s'écria M. Lorgelin en grinçant des dents. Ah, vous ne connaissez pas assez. Allez, mais non, la colère m'emporte. Voyons, mon cher ami, regardez-moi ce Gérondeau. Il a 100 000 écus de capital, que fait-il ici? Rien, rien, rien! Il était un genre d'affaires autrefois. La mort de son père l'a fait riche. Alors il est entré dans l'administration, comme les vieillards pauvres au petit ménage. Et savez-vous pourquoi il reste? Et pourquoi il y restera jusqu'à ce qu'on le mette dehors? Parce qu'il a peur de se ruiner. Il compte comme le peuple. Il ne dit pas « J'ai 12 000 livres de rente », il dit « J'ai 35 francs à manger par jour. » Eh bien, il mange ses 35 francs de 5 heures du soir à minuit. Il aime le jeu, le vin, la bonne chère, les filles. Tous les jours que Dieu fait, ce poussard chasse l'ouvrière entre chien et loup. Il appelle les malheureuses créatures que la chaîne d'or de son gilet fascine du gibier. S'il les payait encore. Mais il les escroque sans pudeur. Il veut être aimé pour lui-même. Enfin, son bureau, c'est pour lui comme un conseil de famille, ça le tient. Il reçoit 120 francs par mois, mais l'argent est la moindre affaire, quoique avare, car il est avare. Il en donnerait autant pour rester à son pupitre et il y trouverait encore de l'économie. « Moi, je dis, reprit M. Lorgelin avec une explosion d'indignation, que l'on n'a pas le droit de donner à des gens riches de ces petits emplois. Place aux pauvres !»« J'avoue, répondit Caldas, que quand entrant ici, je ne m'attendais pas à coudoyer des millionnaires. » « Il n'y a pas de millionnaires, précisément, continua Lorgelin. Mais beaucoup de gens aisés, des timides qui redoutent les luttes de la vie, des paresseux que le travail effraie, des cerveaux faibles qui ne supporteraient pas l'ivresse de la liberté, éternels enfants qui ne sauraient marcher sans lisière du berceau à la tombe, enfin la tourbe des imbéciles, incapables de faire autre chose que ce labeur automatique. » Eh bien, par le fait seul de leur fortune, ces gens arrivent. L'administration aime les employés aisés. Si je donne des appointements insuffisants, dit-elle, c'est que j'entends bien qu'on ne vive pas seulement des appointements. Ah, il est positif, dit Romain, qui songeait à ses 100 francs par mois, qu'il est difficile de se tirer d'affaire avec ce que l'on gagne. Mais dit impossible, et pourtant plus de la moitié des employés réalisent ce miracle. Vous vous plaignez, vous, jeune homme, mais songez à ce que peut faire l'employé marié. Avez-vous pénétré dans un de ces tristes intérieurs? Le mari, au sortir de son bureau, prend à peine le temps de manger. C'est alors que commence sa nouvelle existence, son existence nocturne. Il tient des livres pour une maison de commerce, donne des leçons de n'importe quoi, même de français, reçoit les contremarques à la porte d'un théâtre ou racle de la contrebasse dans une guinguette de barrière. J'en sais un qui tient un bazar à 13 et 25, et la femme de son côté exerce une petite industrie. Elle est mercière ou entrepreneuse de confection pour un magasin. Quand ma mère vivait, moi, j'étais correcteur de journal du matin. Je doublais ainsi mes appointements, mais j'ai perdu mes yeux. Peut-être, interrompit Caldas, y aurait-il moyen de supprimer toutes ces misères? Et lequel? Mais doubler les appointements et tripler le travail. Nous sommes 8 dans mon bureau. Je parie qu'à 3 nous faisons la besogne. Qu'on en congédie 5 et qu'on répartisse leur traitement entre les autres. Monsieur Langerin se mit à rire. Mon cher enfant, dit-il, il n'est pas un jeune surnuméraire qui n'ait fait ce raisonnement après 8 jours de présence. Je vous engage cependant à le garder pour vous. Diminuer les traitements et accroître le nombre des employés, c'est l'essence même de l'administration. Restera dans les places, malheureux, mais que feriez-vous des nullités, des déclassés et des cousins des grands personnages? C'est pour eux qu'on a créé le ministère de l'équilibre, dont le besoin, croyez-moi, ne se faisait pas autrement sentir. Il y a, voyez-vous, 2 catégories d'employés. Ceux que la prévoyance étroite de la famille y case au sortir du collège, parce qu'il faut bien qu'un jeune homme fasse quelque chose. Et ceux dont la vocation ne se révèle que vers la 30e année, les fruits secs de toutes les carrières, les naufragés de toutes les tempêtes. À votre sens, de ces 2 variétés du genre bureaucrate, quelle est celle qui se produit avec le plus d'avantages? Bon, dit Romain, si j'étais entré à 18 ans, je serais déjà sous-chef. Mais vous seriez probablement encore expéditionnaire, mon cher. On n'est pas jeune impunément. À 20 ans, vous auriez évidemment donné plus d'un coup de canif dans le contrat qui vous lie à l'administration. Vous auriez fait des écoles. Et lorsqu'à 30 ans, riche d'expérience, l'ambition vous aurait saisi, un dossier accablant vous eût à tout jamais coulé au banc de votre galère. Caldas ne put s'empêcher de sourire de l'emphase de son collègue à cheveux gris. « Je vous comprends, fit M. Langelin. Vous trouvez que j'emploie de bien grands mots pour de bien petites choses. Ne vous y trompez pas, il s'agit de la vie. Rien ne se perd ici. Les suites d'un bal masqué en 1822 ont empêché l'an dernier la nomination d'un homme de 60 ans. Ouvrier de la 10e heure, vous avez tous les avantages. Vous ne traînez pas le boulet de votre passé et vous ne gâcherez pas, sans le savoir, votre avenir. Vous êtes vierge et fort. » Ces sombres réflexions n'attristèrent point Caldas. Il n'y vit que le pessimisme d'un homme échoué. « J'accepte, lui dit-il, votre horoscope. Espérons que je ferai mon chemin. »« Oh, que vous le fassiez ou non, répliqua Langelin, vous êtes un homme perdu. »«
Perdu ? » fit Romain.
« Oui, si vous trouvez en vous la force de réagir contre l'administration. » Ah, vous croyez que dans 10 ans, vous serez encore ce que vous êtes. Vous croyez qu'on respire impunément cette atmosphère de bureau qui stupéfie comme l'opium. Qu'on peut exister à la façon des taupes, claquemurées au milieu des paperasses, tant que le soleil est à l'horizon, lié à quelques besognes écœurantes et dont souvent je vous défierais de m'expliquer l'utilité. Libres, les autres hommes pensent et agissent. S'ils font un effort, le succès les récompense ou l'espoir les console du revers. Mais pour nous, rien, ni lutte ni espoir. Le même résultat attend le travailleur et le paresseux. On confond la nullité et le mérite. Où est le juge? Quoi que vous fassiez, votre sort est écrit. La vie du bureaucrate est un programme tracé à l'avance. Nous le connaissons et l'on appelle cela avoir son existence assurée. C'est cependant cette assurance contre les risques de la vie qui détruit l'homme chez l'employé, qui lui ôte pièce à pièce l'individualité, l'énergie et parfois l'intelligence. L'homme libre vit, l'employé végète. Et c'est pour cela que je vous répète, réagissez contre l'administration. Mais qu'appelez-vous réagir? Demanda Caldas. Ben, agir en sens inverse de votre abrutissement. Mais que faire? Mais peu importe ce que vous fassiez. Prenez du plaisir ou de la peine, marchez, parlez, lisez, faites de la gymnastique, dansez. Mais ne vous écartez pas de ce principe. Ne jamais voir en dehors du bureau les gens à la société desquels le bureau vous condamne. N'imitez pas ces malheureux qui, au sortir de leur cabanon empesté, vont s'enfermer avec leurs compagnons de chaîne dans un café plus étouffant encore. Fréquentez plutôt des scélérats que des camarades. Cela étant, dit Romain, j'irai ce soir au bal masqué avec des journalistes. Bien, répondit Langevin, très bien, jeune homme. C'est le commencement de la sagesse.